I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer l'épisode, petit rappel traditionnel, si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir via le site Utip, U-T-I-P. Un immense merci déjà à ceux qui mettent à produire déjà tous les mois la meilleure des émissions possibles. Alors ce mois-ci, mon invitée est scénariste et réalisatrice. Elle a coécrit et co-réalisé le film d'animation La Vie de Château, sorti le 8 septembre dernier en salle. Elle est également la scénariste des séries Mixte sur Amazon Prime, de OVNI diffusée sur Canal+, de Nona et ses filles sur Arte, ou encore de la saison 2 de la série En Thérapie. Cette personne pleine de talent, c'est Clémence Madeleine Perdria. Salut Clémence.
Bonjour.
Comment ça va?
Mais ça va très bien. Je suis très bien, cosy dans ce petit studio.
En tout cas, je suis très très content de t'avoir dans l'émission. Tu fais un travail particulier, tu as un regard, tu as un œil particulier, et puis de t'avoir dans les lumières, c'est assez formidable et je suis très content en tout cas.
Bah, merci de l'invitation.
Voilà. Alors ce mois-ci, on s'attarde sur une année toute particulière, située juste après l'un des plus importants événements du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui va forcément infuser dans le cinéma et donner des films célèbres et empreints de ce mélange d'optimisme, de peur et de doute si caractéristique. Une année de grands films puissants, merveilleux et plein d'espoir aussi, où le genre du conte est bien souvent la meilleure des alternatives à une réalité pleine d'incertitudes. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1946.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer qu'au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie.
C'est un classique et vous l'aurez bien sûr reconnu, La mer de Charles Trenet. On écoutait ça en 1946. Alors, pourquoi avoir choisi cette année-là, cette période-là, Clémence, 1946?
Alors, j'ai choisi cette année parce que quand tu m'as proposé de participer à l'émission, je me suis dit que j'avais envie de parler de films que j'aime. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de films que j'aime qui sont sortis cette année-là. Et je trouve que c'est un tournant qui est intéressant. Et moi, il y a quelque chose qui me touche dans les séries comme dans les films, c'est la mélancolie. Ah. C'est quand on va sur ce terrain-là, voilà, avec les personnages, en fait, qu'on ose aller sur ce territoire-là. Et ça, ça me touche énormément. Et je trouve que c'est quelque chose dont souvent on a un peu peur, en fait. On n'ose pas parler de cette mélancolie qui est si humaine, pourtant. Et je trouve que c'est très parlant, probablement parce qu'on est après la guerre. Mais qu'en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est au cœur des films dont on va parler, il me semble. Et ça me touche beaucoup.
Tu dirais que c'est ton sentiment préféré, la mélancolie?
Alors, dit comme ça, c'est pas très joyeux.
Mais
je trouve que c'est un sentiment sous-estimé.
Je suis assez d'accord.
Et qu'on n'en parle pas assez et que souvent on va parler de tristesse ou qu'on va très vite aller vers des éléments de dépression. Ouais. Alors que pour moi, la mélancolie, c'est quelque chose qui fait vraiment partie, en tout cas, de mon quotidien. Et je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose de mauvais. Au contraire, je pense que ça apporte une sorte de poésie au monde aussi. Et je crois qu'on est beaucoup à partager ce sentiment. Et voilà.
C'est très beau. Ce côté doux amer, effectivement.
La chanson qu'on vient d'entendre est très mélancolique aussi.
Voilà, hein. Exactement. Alors, 1946, c'est l'année du célèbre procès de Nuremberg, qui juge 24 responsables nazis, celle aussi du début de la 4ème République en France, ou encore de la guerre d'Indochine, qui ne se terminera qu'en 1954. Cette année-là, les Nations Unies organisent leur toute première assemblée générale à Londres. Winston Churchill popularise le terme « rideau de fer » dans l'un de ses discours. Et les Américains font leurs premiers essais de bombes atomiques près de l'atoll de Bikini. 1946 est également l'année de la naissance à Bruxelles du journal de Tintin et des premières aventures de Black et Mortimer, mais aussi de la sortie du tout premier numéro de L'Équipe, le quotidien sportif français de référence. Mais 46, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Et cette année-là signe la naissance du Festival de Cannes avec sa première édition qui voit concourir notamment la Symphonie Pastorale de Jean Delannoy, la Bataille du Rail de René Clément ou encore Rome, Ville Ouverte de Roberto Rossellini. Les spectateurs, eux, tombent amoureux de Rita Hayworth dans Gilda de Vidor et admirent le duo Bogart-Bacall dans Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Et ils vont voir le western Duel au Soleil, le journal d'une femme de chambre de Jean Renoir, quand les Français sont plus de 7 millions à découvrir le Pinocchio de Walt Disney, premier du box-office cette année-là. Un film de 1940, mais qui, à cause de la guerre, vient seulement de leur parvenir. Et cette année-là, bien sûr, les États-Unis sortent aussi de cette guerre mondiale, un conflit qui transpire forcément à l'écran, à travers des films qui parlent notamment des conséquences de l'après-guerre et des vétérans. Deux films encapsulent cet état d'esprit, entre devoir de mémoire et besoin de renaissance. Deux films qui sont au cœur de notre premier thème, Les plus belles années de notre vie de William Wyler et La vie est belle de Frank Capra. Quelle est belle cette musique de Dimitri Tiomkin, la musique de La vie est belle de Frank Capra, l'un des films, on va dire, majeurs, ou en tout cas les plus célèbres de cette année 1946. Mais c'est un film sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard, parce que, pour commencer, en 1946, le premier du box-office américain, le film le plus important, le plus populaire cette année-là, c'est Les plus belles années de notre vie de William Wyler. Il est premier au box-office, il récolte plus de 10 millions de dollars cette année-là. Il est particulier ce film-là, puisqu'il raconte l'histoire de trois vétérans qui rentrent dans leur petite ville des États-Unis pour découvrir que leur famille, leur vie et eux-mêmes ont irrémédiablement été changés par la Seconde Guerre mondiale et effectivement cet événement majeur du XXe siècle. Et donc c'est un film qui traite frontalement de l'après-guerre et des séquelles physiques et mentales comme l'alcoolisme ou le stress post-traumatique, aussi le retour au travail, aussi le regard de la société, des choses comme ça. Et c'est un film, au-delà du fait qu'il est premier au box-office, il va également gagner 9 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, dont un double Oscar pour Le blessé de guerre qui est amputé des deux mains, Harold Russell qui gagnera l'Oscar du meilleur second rôle et aussi un Oscar d'honneur qui lui a été décerné pour le remercier d'apporter de l'espoir, je cite, et du courage à ses collègues vétérans grâce à son rôle dans le film. Donc c'est un film qui encapsule en 46 énormément d'attention et énormément de récompenses et de choses comme ça. Et on a vu qu'il a un sujet particulier. Toi, quand on a préparé l'émission, Clémence, on a vu un peu les films dont on allait parler. Tu m'as dit, je veux absolument parler de La vie est belle, et on va effectivement en discuter. Et Les plus belles années de notre vie, on va l'évoquer parce que c'est un film qui est important. Est-ce que tu l'as vu, tu as pu le voir pour préparer l'émission ou...
Oui, j'ai pu le voir pour préparer l'émission. Ouais. Je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant, qui est très touchant parce qu'on sent que c'est un film qui a été fait à vif, en fait. Ouais. J'ai cette impression-là, quand je le vois, de quelque chose qui a vraiment été écrit, qui ne pouvait pas être fait à un autre moment. Qui raconte quelque chose d'assez profond sur à la fois le fait qu'ils trouvent le reste de leur monde et de leur quotidien bouleversé, mais qu'en fait ils le sont aussi. Donc oui. C'est vraiment un film sur comment il y a une sorte de résonance entre l'intérieur et l'extérieur de ces soldats, et ça je trouve ça extrêmement, extrêmement émouvant. Et d'ailleurs c'est amusant, je trouve, qu'on parle d'un film qui a très bien marché, qui est celui-ci, ouais. Et d'un autre qui n'a pas marché du tout, puisque La vie est belle a été un échec.
Exactement.
En fait, à sa sortie. Et je pense que c'est parce qu'il y avait une résonance avec l'époque qui était beaucoup plus forte dans Les plus belles années. C'est ça, alors, Les plus belles années de notre vie. À chaque fois,
c'est un titre long, Les plus belles années de notre vie.
Oui, voilà. Et oui, je trouve que c'est un film, en tout cas, qui a quelque chose de bouleversant dans ce qu'il rapporte de l'époque à ce moment-là précis.
C'est vrai que c'est pour ceux qui l'auraient pas vu, et c'est vrai que moi je l'ai vu pour préparer l'émission, donc ça, j'ai aussi appris et découvert pas mal de choses, et je suis assez d'accord avec toi, c'est un film qui est aussi très étonnant parce que tu dis il est fait à vif, et en même temps moi je m'attendais à un film un petit peu un peu plus lisse que ça. Et pourtant, il affronte parfois, il y a des séquences assez frontales sur le PTSD, sur l'alcoolisme, sur comment les soldats, quand ils reviennent dans la vie sociale, ils n'ont plus de boulot. Et comment ils disent bonjour, j'aimerais avoir un travail. La guerre est finie, donc débrouillez-vous. Et donc, tu as des choses qui montrent un peu des aspects de l'Amérique, parfois un peu étonnants et parfois pas très reluisants.
Oui,
donc,
c'est très frontal. Même à l'écriture du scénario, c'est très frontal. Mais je pense que ça vient de ce côté à vif, justement. C'est comme s'il avait été écrit en réaction. Et vraiment pour accompagner d'une certaine manière les soldats qui revenaient, ce qui avait été observé. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'évidemment, quand on le voit, ça résonne avec tous les films qui vont venir après et qui parleront de choses similaires. Je pense à Cimino notamment.
Ouais,
et c'est vrai que en voyant le film, je me suis dit, ça doit être fondateur. Et c'est marrant parce que c'est un film dont moi, par exemple, je n'avais pas du tout entendu parler, même pendant mes études de cinéma, et qui est moins passé à la postérité que La vie est belle, en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que oui, on l'a dit, c'est 9 Oscars, enfin 8 Oscars et un Oscar d'honneur, des millions de premiers box-office, bref. Et pourtant, c'est un film qui est méconnu, moins connu. Malgré tout, donc c'est un film choral qui nous montre plein de 3 portraits, donc de 3 hommes différents, donc vraiment 3 types de profils différents. Et il y a ce côté un petit peu méthodique de regarder ce qui se passe dans ce secteur-là de la vie, regarder ce qui se passe dans ce secteur-là particulier. Et c'est vrai que c'est particulier d'avoir un acteur, l'un des acteurs principaux, qui est amputé des deux mains et qui, tout le film, ça c'est montré, quoi. Il y a des séquences assez fortes, quoi. Il casse les vitres, c'est assez, assez saisissant. Et tu disais effectivement que il avait été fait à vif pour accompagner les vétérans par rapport à ça. C'est une sorte de gros film pansement, en fait, pour l'Amérique.
Oui, je pense que c'est pansement et c'est cathartique. Moi, j'ai aussi pensé à Johnny Got His Gun. Tous ces films qui racontent le retour, qui racontent les blessures et qui décident presque de filmer ça et de le dire de façon très crue, comme pour le mettre un peu en face de ceux qui ne l'auraient pas vécu. Donc, c'est à la fois faire la catharsis vraiment des spectateurs, leur faire vivre des choses très fortes. Parfois, le film nous violente aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans le cinéma d'après-guerre et notamment américain.
Et c'est vrai que tu l'as cité de Cimino, mais effectivement, tu as toujours eu dans le cinéma américain cette nécessité, cette envie, alors peut-être un petit peu opportuniste, mais en tout cas que le cinéma se fasse le pansement, ou en tout cas la catharsis de ce qui se passe dans la vraie vie. Et la Seconde Guerre mondiale n'échappe pas à la règle. C'est un film qui est imposant, il dure 2h50, c'est un gros morceau. Et du coup, on a Les plus belles années de notre vie de William Wyler d'un côté, et de l'autre côté, la même année, on a La vie est belle, qui lui, pour le coup, est un film qui est passé à la postérité. Donc La vie est belle, c'est un film de Frank Capra avec James Stewart, Donna Reed, qui raconte, si vous ne l'avez pas vu, l'histoire de George Bailey, qui est un homme assez célèbre d'une petite ville américaine, qui, le soir de Noël, se retrouve au bord du suicide parce qu'il a perdu une grosse somme d'argent, et du coup sa vie s'écroule et il se retrouve face à ses responsabilités et un petit peu démuni. Et il va rencontrer un ange qui va lui montrer à quoi ressemblerait la vie s'il n'avait pas existé, s'il n'avait jamais vécu. Et du coup, forcément, on a parlé des plus belles années de notre vie, qui est quelque chose de très réaliste. Et là, on rentre dans une dimension qui est différente, qui est celle du conte, de la fable. C'est vrai que quand tu m'as dit « je veux parler de 1946 », l'un des premiers films dont tu as dit que tu voulais parler, c'était « La vie est belle » de Frank Capra. T'as une histoire particulière avec « La vie est belle » de Frank Capra.
Disons que c'est un film que j'ai découvert à deux moments différents, et je trouve ça toujours assez marrant de voir comme les films résonnent, mais comme les livres d'ailleurs, de manière différente au moment où on les voit et où on les lit. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais très jeune, je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans, et c'est un film qui m'avait un peu ennuyée, parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que ce que tu viens de décrire, en fait, ça arrive au bout de quasiment 1h30.
C'est vrai.
En fait, c'est un film qui est extrêmement long au démarrage, et en fait, ce qui est le high concept du film, c'est-à-dire le moment où George va observer sa vie sans lui, ça intervient. J'ai pas le minutage exact en tête, mais à mon avis, c'est 1h20, 1h30, et il reste une demi-heure derrière pour avoir ce fameux high concept avec cet ange, etc. Mais avant ça, ça n'est que la vie de George Bailey, en fait.
C'est un build-up.
C'est une installation, une description de cet homme qui n'arrive pas à partir de sa ville. Il essaye par tous les moyens d'en sortir, et il n'y arrive jamais. Il est comme ramené à l'intérieur de cette ville en permanence, et ça, c'est bouleversant, je trouve. Et du coup, moi, la première fois que je l'ai vu, je m'étais beaucoup ennuyée la première heure et demie, parce que j'étais une enfant un peu impatiente, j'avais envie qu'il se passe quelque chose.
Il est où l'ange,
Mais je comprenais même pas, parce qu'en fait, l'ange, au début, il est évoqué de manière très étrange. La façon dont c'est filmé, c'est vraiment Capra filme les étoiles qui scintillent quand elles parlent. C'est assez radical comme dispositif. C'est vraiment très étonnant. Et puis, je l'ai revu quand j'étais à l'université, à Paris 3. J'avais été bouleversée par le film. Je sais pas, cette fois-ci, il y avait quelque chose qui m'avait parlé, où je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est profond, en fait, ce que ça essaye de dire sur, sur le monde. Et puis là, je l'ai revu... mais il y a quelques jours pour l'émission, pour que ce soit bien frais dans ma
tête. Tous les 10 ans.
Voilà, c'est ça. Nous ne dirons pas mon âge, mais c'est à peu près ça. Et voilà, et en le revoyant, je trouve que ça marche toujours aussi bien, en fait. Et alors, il y a ce dont je parlais au début de l'émission sur la mélancolie, où je crois que c'est un personnage qui est extrêmement mélancolique, voire dépressif et carrément suicidaire, hein, puisque c'est vraiment le sujet.
Parce que mine de rien, il met entre parenthèses ses ambitions personnelles à chaque fois pour prendre soin de sa famille ou de la ville. C'est James Stewart, donc c'est ce côté bon américain qui pense au bien commun au lieu à son bien personnel. Et du coup, il y a cette dimension tragique.
Oui, il y a quelque chose de l'ordre du tragique parce qu'il n'arrive pas à partir et qu'en même temps, les choses lui tombent dessus. C'est-à-dire qu'il essaye une première fois de partir et ça... Il y a d'abord le sauvetage de son frère qui est déterminant pour le reste de sa vie. Et ça, on va le voir aussi, parce que s'il n'avait pas existé, il n'aurait pas pu sauver son frère, donc son frère serait mort. Enfin voilà, tout un truc comme ça de battement d'aile du papillon. Hein, et il est sans cesse ramené dans sa ville, mais ça lui tombe dessus. C'est-à-dire que c'est même pas des choix, c'est des sortes de non-choix. Et notamment, il y a quelque chose qui est très beau au début, c'est qu'il travaille avec un pharmacien. Ouais. Le pharmacien est âgé, il vient de perdre son fils, et il se trompe dans le dosage, et il envoie le personnage de George donner les médicaments. Et George sait que les médicaments sont mauvais et du coup il va sauver le patient qui aurait dû les prendre et mourir en revenant sur ses pas. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il est toujours mis au cœur de l'action et donc on le suit, on a très envie de partir avec lui. Et bizarrement, c'est un film qui est bizarrement construit d'un point de vue narratif, il y a comme ça une sorte de retournement où arrive le fameux eye concept, donc regarde ta vie sans toi, qui va le faire complètement changer d'avis. Et soudainement, dans la dernière heure du film, il n'est plus du tout question de partir. Au contraire, il est question de se rendre compte de ce qu'on a et de combien ce qu'on possède est précieux. Donc en l'occurrence, lui, sa femme, ses enfants, sa ville, ses amis. Et voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être perçu comme un peu moralisateur dans le film, qui a d'ailleurs été beaucoup présenté comme un film de Noël, ce que je trouve assez rigolo, parce qu'effectivement, la dernière partie se passe pendant Noël, mais en réalité, tout le reste, c'est la vie d'un homme assez lambda, en fait, qui essaye de se battre pour partir et qui n'y arrive jamais.
Quand on parle effectivement comme ça, c'est cette dimension mélancolique, cette dimension assez lourde, qui est au cœur d'un film à la Capra. C'est quoi un film à la Capra ? Comment tu définirais ça, toi ?
Je crois que Capra, il a cet immense talent d'arriver à mélanger une forme de grande joie à une forme de grande tristesse, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de façon parfaite de faire du mélo, mais dans ce que ça a de plus noble, hein, parce que moi, vraiment, je le dis avec tout l'amour que j'ai pour Frank Capra. Et là, dans ce film, je trouve que c'est assez saisissant, en fait, à quel point il arrive à mêler les deux parfaitement, ce qui fait qu'on est à la fois très bien devant le film, et en même temps, ça nous bouleverse. Il faut quand même aussi dire que c'est extrêmement bien joué, bien mis en scène, hein. Ça, c'est... Il y a vraiment des plans qui sont étonnants. Ouais. Et notamment, la rencontre amoureuse est très belle. Donc, il rencontre celle qui va devenir sa future femme. Et ils sont en train de danser. C'est un bal dans lequel il ne faut pas s'arrêter de danser pour gagner. Puis, il voit tout le monde autour de lui qui s'arrête de danser. Donc, il se dit, mais c'est super, je ne danse pas très bien, mais je suis en train de gagner. Et en fait, tout le monde est en train de s'écarter parce que la scène est en train de s'ouvrir en deux et qu'il y a une piscine sous la scène et il va tomber dans l'eau. Et ce qui est joli, c'est que si on était avec un réalisateur moins optimiste ou un scénariste moins optimiste, il tomberait dans l'eau et tout le monde se moquerait d'eux. Et en fait, ce qui se passe, c'est un retournement, c'est que tout le monde trouve ça trop cool de sauter dans la piscine et tout le monde saute dans l'eau. Et au final, ceux qui ont voulu lui faire un mauvais coup en ouvrant la piscine, ils finissent par sauter aussi. Et ça, c'est tout Capra, je trouve. Le fait que tout le monde se retrouve dans l'eau et que c'est joyeux et que ce qui était au départ une mauvaise intention donne lieu à quelque chose de lumineux.
Mais du coup, on n'en dira pas plus pour les gens qui veulent le découvrir. Mais oui. T'as dit quelque chose juste avant, c'est qu'effectivement, Vie est belle est connu, on va dire, de nos jours comme un peu le film à la Capra par excellence. C'est vrai que c'est un film qui est souvent sorti dans les listes de films de Noël. Mais peut-être aussi parce que la fin se passe en hiver et se passe à Noël, et aussi parce qu'il y a cette dimension de conte. Mais tu vois, c'est ce genre de petites choses qui... avec ce noyau mélancolique qui te...
Mais de toute façon, les retours en arrière sont mélancoliques, les... qu'aurait été ma vie sans moi profondément aussi. Et je crois que c'est un film qui est sans doute une sorte de maître étalon pour les films comme Retour vers le futur ou comme Le jour de la marmotte. Enfin, moi, je pense que c'est un film qui est absolument fondamental dans l'histoire de la narration à un moment précis, d'arriver à dire on va faire des choses qui semblent pour l'époque, quoi, 1946, ils font parler des étoiles et il y a un ange qui arrive pour lui montrer sa vie. C'est très étonnant, en fait. Ouais. Aujourd'hui, ça nous semble un truc normal de faire des allers-retours dans tous les sens, etc. Mais pour l'époque, je pense que c'est vraiment 46, très étonnant, en fait.
C'est assez particulier. Et c'est un film qui, du coup, forcément, se finit de manière très, très optimiste.
Oui.
C'est drôle parce que là, nous, on dit « La vie est belle ». En anglais, c'est « It's a wonderful life mm-hmm. ». C'est quasiment une affirmation, c'est quasiment un cri genre « La vie est belle ». Et ça arrive après la Seconde Guerre mondiale. Donc, t'as un côté, les films sortent pour affirmer quelque chose, pour dire ok, maintenant la vie est belle et on peut se satisfaire de ce qu'on a parce qu'on sort d'un trauma qui est une guerre mondiale et quelque chose. Donc t'as vraiment cette dimension dans ce film là que j'aime bien, qui raconte quelque chose de son époque, quoi. C'est assez rigolo. Tu l'as dit juste avant, La vie est belle, quand il sort en 46, et ben c'est un échec, c'est-à-dire qu'il coûte 3 millions de dollars et il arrive à peine à se rembourser au box-office américain.
Il va fermer sa société, et surtout Capra.
Voilà,
après
du coup,
ça...
Capra perd Liberty Bell Company. Quand il sort, il y a un accueil mitigé, public critique, et Capra, on va dire, c'est le film qui effectivement casse une dynamique qu'il avait. Il est nommé à 5 Oscars, bah, en face du film de Wyler, il en gagne 0. Et pourtant, là, on est en 2021, c'est l'un des films les plus connus de Frank Capra. Comment ce film-là, il est passé de film complètement méconnu et mésestimé et accueil mitigé à le film connu et célèbre qu'il est aujourd'hui, en tout cas, à sortir dans les tops de films de Noël, etc. etc.
Ah bah c'est toujours un film qui fonctionne, hein. C'est toujours très mystérieux, ouais. C'est toujours très magique. Je crois que le film, il a quelque chose de vraiment... il traverse le temps, en fait. Il n'a pas d'époque.
Universel.
Il est totalement universel. Et surtout, je pense qu'il fait vraiment écho à la problématique et celle de quand même beaucoup, beaucoup de gens qui est de se sortir d'un milieu, qui est de sortir d'un bled, d'un village, d'un endroit qu'on n'aime pas, d'un endroit dans lequel on sent que notre épanouissement, il est comme contré, quoi. Et je crois que Georges vit ça vraiment pendant 1h30. Et que nous, on retient beaucoup la fin, Noël, etc. Mais que ce qui est profond dans le film et ce que Capra essaye de dire, et James Stewart le joue magnifiquement, c'est cette impossibilité de partir. Et ça, je pense que c'est de tout temps et que ça résonne, en fait, partout. Et je crois que c'est pour ça que le film, il continue d'être sans âge et que vraiment, quand je l'ai revu, là, je me suis dit, ça n'a pas vieilli d'un pouce, quoi.
Et on pourra le revoir dans 10 ans et on aura encore un autre regard sur ce film-là. C'est vrai, alors moi, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a cette dimension universelle et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi un film fonctionne pas, pourquoi Blade Runner, quand il sort... sa sortie en 82, c'est un échec, et puis maintenant c'est voilà. Et pourquoi c'est très particulier, pourquoi un film qui gagne 8 Oscars maintenant est peu connu. La vie est belle, il me semble que tu as aussi une dimension où ça a été un film, je crois, dans les foyers américains qui a été passé, genre justement à Noël pendant 50 piges, et que du coup c'était un peu, il y avait ce côté un peu classique qui s'installe, un peu comme le Père Noël est une ordure, un peu comme des choses comme
mais
ça.
Mais qui sont des films durs aussi. Parce que le Père Noël est une ordure, on a l'impression film de Noël, etc. Ça... Mais c'est extrêmement violent.
C'est un film
qui est très dur, et dans ses termes, et dans ce qu'il décrit, et dans la misère qu'il évoque. Donc je crois que le film de Noël, il y a aussi Love Actually qui existe,
qui est très dur, Love Actually.
Ah bon ?
Ah bah, l'histoire d'Emma Thompson et d'Alan Rickman.
Oui,
elle est terrible. La scène où elle pleure avec sa musique, ça me...
C'est vrai qu'il y a des grandes violences humaines dans ce film aussi.
Je suis l'autre qui est amoureux de Keira Knightley et qui peut pas l'aimer. Enfin, il y a des. Je suis pour réhabiliter le fait que Love Actually est un film plus triste qu'un film de.
C'est vrai, on peut réhabiliter Love Actually, qui n'en a pas besoin, qui ne nous a pas attendu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le côté un peu Maria Carey, etc. Noël et tout ça, en réalité, porte en lui les paradoxes que sont Noël, c'est-à-dire qu'on est tous à la fois très heureux de se réunir, en même temps c'est insupportable.
Ça cristallise
beaucoup de choses, et la famille, on l'aime, on la déteste, etc. Et les films de Noël cristallisent ça très bien, donc c'est des films qui ne sont pas que, en tout cas, sur Noël.
Moi, j'avais une question un peu pour terminer ce thème, parce que mine de rien, on a évoqué pas mal de choses. On a vu que t'avais ce côté « La vie est belle », comme une sentence, genre « La vie est belle », un film très optimiste après la Seconde Guerre mondiale. T'as « Les plus belles années de notre vie » qui est sorti en même temps avec cette fin également optimiste. Donc, t'as beaucoup de films comme ça qui, après la Seconde Guerre mondiale, on l'a discuté, c'est des films pansements. Et moi, j'ai envie de poser aussi une sorte de question. Est-ce que ces films-là, qui viennent quand même de gros studios, ont pas été une sorte de propagande, ou en tout cas de mouvements politiques de la part des États-Unis pour remettre de la joie dans les salles de cinéma et remettre via ça de la joie dans le peuple américain qui devait en 46 se remettre au boulot et de nouveau être heureux. Mince.
Mince. Oui, alors je crois que propagande, ça lui a été reproché. Patriotique, on pourrait dire, aussi de façon plus élégante, moins dure pour le film. Alors moi, je crois que si c'était le cas, c'est des films qui auraient disparu. S'ils n'étaient que ça, ils auraient disparu. Et il y en a eu, et ils ont disparu. En tout cas, on en parle moins, ils ne sont pas intéressants. Je crois que même s'il devait y avoir un désir profond de parler de tout ça, de consoler d'une certaine manière le public, fondamentalement, c'est quand même des gens qui ont envie de faire des films, qui ont envie de raconter des histoires. Et celle-ci, elle est tellement bien racontée que voilà, on rentre dedans, on a envie de suivre Georges. Et c'est toujours tellement étonnant de suivre un petit monsieur qui n'a pas fait grand-chose, qui n'est pas, qui est juste un petit notable dans une petite ville qui a des problèmes. Et je crois que le film, voilà, il traverse le temps parce qu'il n'est pas... Voilà, que un film qu'on pourrait dire patriotique, même si la fin, effectivement, l'est. Hein, et qu'au final, pour Georges, c'est un échec. Il n'a jamais réussi à partir.
Mais l'Amérique a gagné.
Mais l'Amérique est consolée.
L'Amérique est consolée, voilà. Donc finalement, voilà, évidemment, ma question était un petit peu maligne, un petit peu tordu, mais en même temps, voilà, je voulais m'amuser à poser cette question, la laisser flotter comme ça en l'air.
Non, mais je crois vraiment que l'image finale qui est beaucoup montrée, c'est Georges qui rentre à la maison, qui prend sa fille dans les bras, sa femme dans ses bras, et tous ses amis qui arrivent, qui lui donnent de l'argent, parce que c'est vraiment un film sur l'argent aussi. C'est étonnant à quel point on voit les billets tout le temps.
C'est vrai.
C'est très... et ça aussi, c'est la crise. Hein, c'est de dire, voilà, dans des cas de manque d'argent, la première fois, Georges se cotise pour les gens de la ville, et la seconde fois, les gens de la ville se cotisent pour lui. Et du coup, c'est vraiment, on le voit, c'est quelque chose qui est montré. Et pourtant, on n'est pas dans Ocean Eleven, hein, mais les biais existent, etc.
C'est vraiment,
pas du tout abstrait. C'est vraiment la question de l'argent et la question du retour à la maison. Et à la fin, Georges rentre à la maison et ça console tout le monde.
Et voilà, formidable. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1946. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. On est toujours avec Clémence Madeleine Perdria. Et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. La musique magnifique de Georges Auric, musique du film qui va être au cœur de notre second thème de cette année 1946. Et ce film, c'est La Belle et la Bête de Jean Cocteau, film avec Josette D, Jean Marais. Un film qui, l'histoire, vous la connaissez, vous la connaissez tous, c'est l'histoire d'un père qui, pour l'offrir à sa fille belle, cueille sans le savoir une rose appartenant au jardin de la bête. Un être qui, justement, va s'en offenser. Et afin de sauver son père, la belle accepte de partir vivre au château de la bête et va du coup à son contact peut-être un peu changer et peut-être tomber amoureuse. Ça, on ne le sait pas. C'est l'adaptation d'un conte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et c'est un film qui est sélectionné en 1946 au premier festival de Cannes et qui remporte en passant le prix Louis de Luc, qui est le prix du meilleur film français de l'année. Et qui, en 1946, au box-office français, va amener 3,8 millions de spectateurs en salle. Alors, 3,8 millions de spectateurs en salle en 2021, on se dit mais c'est phénoménal. Là, Dune fait 3,4 millions, Kaamelott a fait 2,8 millions. C'est forcément effectivement le premier du box-office français. Eh bien non, en 1946, La Belle et la Bête est 16e du box-office français. Donc, il faut imaginer effectivement que c'est une autre époque. Et à l'époque, le cinéma... est une autre activité, en tout cas les gens ont un autre contact.
Et beaucoup moins de sorties le mercredi.
Et il y a beaucoup moins de sorties effectivement le mercredi aussi.
Les entrées se diluent moins.
Mais voilà, mais du coup, faut imaginer que voilà, quand on est 16e au box-office français en 1946, on fait quand même 4 millions d'entrées, ce qui est quand même assez impressionnant. Et ce qui du coup met une drôle de perspective sur 2021. Est-ce que toi, tu te souviens de ton premier souvenir de La Belle et la Bête? Tu te souviens est-ce que la première émotion que tu as eue en voyant La Belle et la Bête de Jean Cocteau?
Oui, je l'ai vue également petite, mais décidément. En fait, la cinémathèque de Chaillot a brûlé. Et dans les années 90, je me suis retrouvée avec ma maman et mon petit frère à aller à l'annexe qui avait été créée, qui était à côté du Grand Rex, et qui était plus proche de chez nous. Donc finalement, finalement cet incendie a sauvé ma cinéphilie, parce que si Chaillot avait été toujours en activité, j'aurais pas pu, c'était trop loin de chez nous quoi.
Ouais.
Bref, tout ça pour dire que je suis beaucoup allée au cinéma dans cette petite salle près du Rex, et que j'ai découvert, je pense à 6 ou 7 ans, La Belle et la Bête.
Ah, c'est jeune.
C'est jeune. Oh. Et ça m'avait totalement traumatisée. Vraiment, ça a été un visionnage, je m'en souviens très très bien. Et notamment, quelque chose qui m'avait fait très peur, c'est que dans le film, il y a beaucoup de mains,
oui.
tout le temps.
Oui.
En fait, des mains qui sortent des murs, ah bah oui. des mains qui, même quand elle est à table, La Belle, il y a une main qui va servir le verre ouais. et puis revenir sur le chandelier. Enfin, c'est totalement effrayant. Toutes les cariatides sont des vraies têtes avec des vrais yeux. Et en fait, ça, pour moi, c'était la terreur. C'est-à-dire qu'après, je pensais qu'il y avait vraiment des mains partout.
Ouais.
Enfin, je pense que c'est un film, et ça, enfin, je crois que ça n'a pas vieilli, qui est totalement effrayant pour les enfants, parce que comment dire, ça rend concret des fantasmes et des
ouais.
peurs profondes des enfants, quoi.
Ouais.
Donc c'était très 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 très
et
dur.
Puis c'est un film en noir et blanc, donc il y a pas les
et
couleurs
puis...
pour te rassurer, c'est pas Podane. Là
oui.
t'es vraiment noir et blanc, donc quand les yeux blancs s'ouvrent sur
oui.
une statue très très sombre, t'as cet effet saisissant déjà.
Et puis c'est un film dans lequel il y a très peu d'humour.
Oui,
en fait. Non mais
c'est
étonnant oui. parce que c'est un conte et,
oui.
et en fait souvent les contes sont très premier degré en fait, très sérieux et contrairement à La Vie est Belle, où parfois il y a des moments voilà, qui sont rigolos,
ouais.
où voilà, on peut imaginer qu'un enfant il trouverait quelque chose, des blagues, des chutes et tout ça. Là, pas du tout en fait, c'est vraiment très 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 premier degré. Et donc voilà, et donc c'est un film que je n'avais pas revu depuis et que j'ai revu à cause de toi.
À cause de moi, bah, comme
voilà.
quoi Année-Lumière sert aussi à ça,
voilà,
à faire la paix avec ses traumas.
Exactement, et je l'ai trouvé toujours aussi impressionnant. Enfin, j'ai évidemment pas eu aussi peur que la première fois, mais quand même, je me suis dit, voilà, je ne le montrerai pas un jour à ma fille quand elle aura cet âge-là. J'attendrai un peu.
Mais c'est marrant parce qu'Année-Lumière, on parle beaucoup de traumas dans Année-Lumière. Beaucoup de gens qui voient des films trop tôt, Jurassic Park à 7 ans, La Belle et la Bête à 6 ans, effectivement.
Ouais, mais je pense que ça construit aussi un amour pour le cinéma,
le
trauma. Je dis pas que c'est souhaitable, mais en tout cas, je pense que les souvenirs très forts de cinéma fondent notre amour pour cet art.
Alors c'est un film qui est pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tu l'as effectivement évoqué, qui est certes merveilleux, certes enchanteur dans une certaine séquence, mais aussi assez étrange, tu l'as dit, parce qu'il y a dans le décor, il y a des statues vivantes, il y a des chandeliers qui bougent, le manoir de la bête est véritablement une chose organique, une chose en tout cas mouvante, floue et donc forcément un peu mystérieuse. On doit beaucoup de cette dimension mystérieuse à la photo d'Henri Alcan, qui est donc le directeur de la photographie du film, et j'ai été estomaqué pour me rendre compte que le film était d'une beauté assez phénoménale. Mmh. T'as des gros plans sur les acteurs avec des yeux de Josette D ou les yeux de Jean-Marie qui brillent, mais t'as jamais vu ça. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'Alcan a dû faire avec des projos, etc., mais t'as une lumière dans ce film-là qui est sculpté, t'as des séquences assez saisissantes de lumière d'une beauté assez, assez rare, un peu lumière divine, et t'as un cachet vraiment assez atypique sur le film. Autre chose assez saisissante, il faut qu'on en parle effectivement, Jean Marais, immense acteur français, qui se retrouve sous le maquillage de la bête pendant la grande majorité du film. Un truc assez fou, c'était quand même un maquillage qui l'obligeait tous les matins à s'installer pendant 5 heures, tous les matins de tournage, pour se faire mettre effectivement des prothèses.
Et oui, il en a fait un eczéma, le pauvre.
Voilà, du coup il a souffert, alors quand on voit effectivement Jean Marais, c'est assez drôle, et on a un costume, un maquillage pour moi qui date d'une autre époque. Enfin, il y a une perfection dans ce maquillage et dans ce détail. À un moment donné, je me souviens d'une scène où il y a les oreilles il est dehors avec la belle et je crois qu'il voit un faisan ou un chevreuil, et il y a ses oreilles qui se lèvent, et du coup
sur internet ils expliquent, ce que j'ai regardé, je me suis fait la même réflexion que toi, ils expliquent qu'il y avait quelqu'un derrière avec des fourchettes qui bougeait les oreilles non mais en fait ce qui est incroyable c'est que voilà, je crois que tout à l'heure on a parlé dans La Vie est Belle du fait que c'est un film qui, à mon sens, est très fondamental pour tous les films ensuite qui vont revenir sur le temps, etc. Là, c'est un film évidemment fondamental pour le genre, on va en parler, mais pareil, c'est un film qui n'a pas vieilli, où en fait, quand on accepte que forcément c'est pas les effets spéciaux qu'on connaît maintenant, mais ça marche quand même très 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 bien, et surtout ça veut dire que Cocteau, il a une sorte de croyance absolue dans le fait que tout le monde ne peut pas jouer ça. Il faut un grand comédien derrière, même si on ne le voit pas. Et ça a été prouvé ensuite. Voilà, on le sait, les films aujourd'hui sont joués, alors que parfois on ne voit pas les acteurs par des grands acteurs, parce qu'ils amènent quelque chose dans leur façon de bouger et surtout dans leur voix. C'est une croyance immense dans la voix, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très touchant.
C'est vrai qu'il y a cette voix de Jean Marais, et puis ce texte aussi très posé, très théâtral. Et c'est vrai que je voulais dire aussi que... mine de rien, La Belle et la Bête, tout dans La Belle et la Bête est conte pour moi. C'est-à-dire que t'as ces décors escamotables, t'as cette lumière complètement folle, t'as l'impression de voir du Gustave Doré, t'as l'impression d'ouvrir un livre de contes, et tout dans le film est conte, et tout fascine. Et du coup, ça en amène à ma question, parce que La Belle et la Bête est, mine de rien, encore une fois, un film qui est cité quand même assez régulièrement parmi les films les plus importants, etc., etc. Qu'est-ce qui fascine autant, 70 ans après encore, dans La Belle et la Bête? Pourquoi ce film-là fascine autant
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de radicalité dans la proposition qui est totale. C'est-à-dire que c'est comme si Cocteau avait sans doute les mains un peu plus libres, parce que c'était déjà un grand artiste, en fait, qui était déjà très reconnu, donc il pouvait faire exactement ce qu'il voulait, ce qu'il avait en tête. Et du coup, il a fait quelque chose de très libre et de très radical. Et je crois que ça surprend beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des contraintes qui sont des contraintes de production, des contraintes de scénario, des contraintes d'acteurs. Enfin, on est tout le temps contraint, et ce film donne l'impression qu'il ne l'est pas du tout.
Alors qu'ils ont galéré pour le
faire. Bien sûr, et que c'est un film qui a été reporté plusieurs fois et qui a été très difficile à monter. Et bien sûr que derrière tous les films, il y a des histoires qui sont difficiles. Mais en tout cas, moi, quand je le vois, je me dis vraiment, mais rien ne l'arrêtera, en fait. Il peut tout faire. Et en ça, le film est très étonnant.
Et c'est devenu un sorte de maître étalon du conte à la française. C'est-à-dire que quand on pense conte, film français de conte, La Belle et la Bête, même si on ne l'a pas vu, c'est quand même déjà une image. C'est ce visage de Jean Marais, c'est Josette D, c'est la lumière, pareil, d'Alcan, des choses comme ça. C'est drôle que tu aies évoqué le fait de croire, parce que effectivement, Jean Cocteau, c'est un cinéaste, certes, mais c'est aussi un poète. C'est quelqu'un qui croit beaucoup à cette dimension spirituelle, on va dire, des mots, de la beauté, cette dimension un petit peu poétique au-dessus de tout. Et le film commence par une sorte de mode d'emploi de comment voir le film. Ça, c'est assez rigolo. Mmh. C'est-à-dire que le générique est écrit à la craie par les acteurs et par Jean Cocteau. Donc, c'est un film avec Jean Marais, et on voit Jean Marais écrire Jean Marais et l'effacer, avec Josette D et l'effacer, et Jean Cocteau, etc., etc. Et le film commence par un tableau noir où il y a un texte qui est écrit, et c'est l'intro du film. Et c'est une intro en forme de mode d'emploi que je vais vous lire là. Et Jean Cocteau écrit donc: l'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit qu'une rose qu'on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle croit que les mains humaines d'une bête qui tue se mettent à fumer et que cette bête en a honte lorsqu'une jeune fille habite sa maison. Elle croit mille autres choses bien naïves. Et c'est un peu de cette naïveté que je vous demande, et pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire quatre mots magiques, véritables, sésame, ouvre-toi, de l'enfance. Il était une fois. Et le film commence comme ça, et Cocteau nous dit, écoutez, encore une fois, on sort d'un moment qui a été compliqué pour tout le monde. Là, je vous demande de aller chercher l'enfant qui est au fond de vous. Et je trouve ça fou, moi. Des films avec des modes d'emploi, c'est quand même pas souvent. Hein. Et ils nous demandent de croire.
Oui, et en même temps, ils demandent aussi à ces acteurs d'écrire et d'effacer leur nom. Ce qui déjà comporte dans l'ouverture quelque chose de, je trouve, très profond et de très vertigineux. Quand je l'ai revu, je me suis dit, c'est beau et c'est violent aussi de leur demander de faire ça. Enfin, ça dit quelque chose, en fait, sur... une sorte de paradoxe, comme ça, d'être au présent dans le film, puis en même temps de disparaître. Et en fait, je crois que Jean Cocteau, c'est quelqu'un qui a une conscience profonde, dans le conte se jouent des vrais drames. Et moi, il y a une phrase qui me revient du film, parce que du coup, je l'ai assez frais dans la tête, mais à un moment où la belle dit « je n'aurais pas peur ». Elle le dit comme ça, « je n'aurais pas peur ». Et elle le dit comme une sorte d'incantation, parce qu'en fait, elle est terrifiée. Et c'est vraiment cette croyance qu'il a dans le fait qu'on peut dire les choses et que le monde peut changer parce qu'on les dit, parce qu'on les formule et parce qu'on les voit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de l'enfance. Les enfants qui vont se dire des trucs, « j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur », alors qu'ils sont terrorisés, en fait. Et voilà, je trouve qu'il y a un rapport au langage dans ce film. Ça a été beaucoup analysé. Mais qui est très présent et qui fait aussi qu'il traverse le temps.
Le pouvoir des mots. De la part d'un poète, c'est quand même... c'est une sorte d'évidence, mais effectivement, sésame, ouvre-toi, il était une fois... ces mots qui peuvent débloquer tout un imaginaire, tout un univers. Et c'est marrant parce que je discute de ça avec une scénariste qui, du coup, manie des mots tous les jours. Toi, c'est, en tant que scénariste, c'est quoi ton rapport, justement, au genre du conte? Parce que c'est un genre qui est... je t'avoue, dans la vie de tous les jours, et même dans le cinéma et même dans les séries, qui est assez discret.
Je crois pas que c'est si discret que ça, parce que je crois que ça nous hante, en fait. Et moi, il y a quelque chose qui me... Alors là, je peux parler que de mon expérience personnelle, mais en tout cas, j'ai réalisé un film qui s'appelle La vie de château, lequel il y a une petite fille qui va perdre ses parents pendant les attentats. du 13 novembre et qui va être placé chez son oncle qui travaille à Versailles. Et quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, voilà, je raconte cette histoire-là. Et bien plus tard, quand le film est sorti, c'est-à-dire 2 ans quasiment, parce que c'était de l'animation, donc à fabriquer, c'est très long, je me suis dit, mais en fait, c'est une petite fille orpheline, comme dans Un conte sur deux, qui va aller voir un oncle qu'elle connaît mal, qui est une sorte d'ogre, dans un château, qui va se perdre à un moment dans les, dans les conduits voilà, qui s'appellent l'araignée, qui sont des conduits d'eau à Versailles, qui ressemblent à un labyrinthe, et qui va rencontrer une assistante sociale qui est une sorte de bonne fée. Et en fait, d'un coup, quand je l'ai décousu dans ma tête, je me suis dit, non mais en fait, c'est en moi, et je ne l'avais même pas analysé comme ça, c'est-à-dire que pas une seule seconde, je me suis mise en face de mon scénario en train de dire, alors elle, ça va être la bonne fée, lui, ça va être l'ogre, jamais. Mais parce que voilà, on est hanté par des mythologies qui sont des mythologies de contes, qui sont des mythologies aussi, voilà, qui vont nous ramener à l'Odyssée ou voilà, à des grands, grands contes qu'on a étudiés et qui, en fait, sont complètement dans notre société, partout. Et je crois que beaucoup, beaucoup de films, en fait, sont hantés par ça. Et parfois, c'est plus, comment dire, c'est plus parlant. Quand on regarde le cinéma de Jeunet, par exemple, clairement, il orgne tout le temps du côté du conte. Voilà, c'est visible. Mais je crois qu'il y a plein de films dans lesquels c'est pas visible, mais au fond, ça irrigue tout le cinéma. Et c'est là qu'on voit que, bah, selon les pays, évidemment, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes contes. Et parfois, il y a même des choses qui nous échappent, parce qu'on peut voir des films, par exemple, on verra un film danois et on n'aura pas le conte. Et donc, il y a quelque chose de la profondeur du film qu'on saisira peut-être pas, parce qu'on n'aura pas la référence presque inconsciente, en fait, du récit.
Oui. Et puis, effectivement, quand tu parles de conte, tu parles forcément de... Ben, tu l'as, tu dis de récit... Donc, un peu de récit imaginaire, donc de choses que, bah, on te racontait quand tu étais enfant, de choses qui se passent soit oralement, soit dans les livres, soit à travers les siècles. Donc, tu as ce côté d'histoire permanente de l'humanité, comme une espèce de grande tapisserie de Bayeux qui nous appartient tous. Et finalement, les histoires, toi, là, La Belle et la Bête, effectivement, c'est un conte de français du 18e siècle, mais c'est une histoire que tu retrouves au 2e siècle en Perse, tu retrouves au 5e siècle en Asie. Ben, voilà, comme tu le disais, c'est des choses qui sont au cœur de l'être humain, que les gens ont besoin toujours de revenir.
Oui, et qui sont au cœur de l'être humain parce que ça rencontre nos plus profondes angoisses. Et tout comme quand on va voir Peau d'âne, qui est un petit peu voilà, dans ce style-là de cinéma, du conte, etc., de Jacques Demy, voilà, qui sortira plus tard. Mais c'est pareil, en fait, c'est qu'au fond, de quoi on parle ? On parle d'un père qui veut coucher avec sa fille, en fait. On est en train de parler d'inceste. Et dans La Belle et la Bête, on est en train quand même de parler du syndrome de Stockholm, en tout cas de ce qu'on a un petit peu nommé comme ça, c'est-à-dire de quelqu'un qui est complètement prisonnière, qui ne peut rien faire, qui doit sauver son papa aussi, parce que c'est toujours des fidélités familiales, et qui va tomber amoureuse de celui qui la retient. Donc à chaque fois ce sont des angoisses très profondes de captivité, d'amour, de tout ce qui se joue aussi, qui est très humain et qui sont mis dans les contes pour faire catharsis, et ça marche de façon formidable.
Tu as répondu magnifiquement bien à ma question, parce que j'ai posé la question, est-ce que le conte est encore pertinent en 2021?
Mais je crois qu'il le sera toujours. Je crois que c'est le conte, c'est les contes. Je crois que c'est vraiment tous les mythes qui nous habitent et qui ne cessent d'être repris. Là, en ce moment, je regarde Succession et je vois dans la série sans cesse la figure du père comme ça impossible à tuer, et qui sont vraiment des figures aussi de contes et de mythes. Et je suis sûre que les scénaristes, de façon inconsciente ou non, se repose sur cette culture commune qu'on a des contes.
Est-ce que tu mettras du conte dans la saison 2 dans Thérapie?
Alors, non seulement il y en a dans la saison 2 dans Thérapie, mais surtout l'analyse pousse à ça. Il y a beaucoup de psychanalystes qui partent des contes, qui analysent les contes, qui voient tout ce qui est inconscient et qui est véhiculé. Et c'est pour ça qu'on raconte des contes aux enfants aussi, pour les mettre en garde de choses qu'on ne peut pas leur dire. On va leur lire Peau d'âne, et au fond, le message, c'est attention, ce n'est pas normal si ton papa a envie de t'épouser. Et donc voilà, c'est au cœur de la psychanalyse, et on a beaucoup beaucoup parlé de ça avec les scénaristes, et on a beaucoup lu aussi le livre de Bettelheim qui parle de ça, la psychanalyse des contes de fées. Donc voilà, je pense que ce sera toujours là, qu'on le veuille ou non.
Donc mine de rien, on est parti d'une petite fille de 6 ans qui découvrait La Belle et la Bête dans une annexe près de Grand Rex.
Mais c'est pas pour rien que ça m'a traumatisée, en fait. Ça ne m'aurait pas traumatisée si ça avait pas été aussi profond, aussi vertigineux et aussi effrayant. Je crois que de voir cette jeune fille se sacrifier, avoir ce choix à faire, j'abandonne mon père ou je reste dans ce château. Évidemment qu'on reste dans le château si on aime son papa. Donc c'est terrible de regarder ça quand on est enfant.
Oui, c'est vrai. C'est un film magnifique, très lyrique, très poétique. Il est incomparable, il est un peu unique dans le sens où j'essaie de penser à d'autres films un petit peu dans la même qui jouaient tellement à fond la carte du conte et qui y croyaient, qui machin. Mais en fait, C'est un peu, en tout cas, dans le cinéma français, c'est un peu l'un des rares. Il est très unique et c'est pour ça que...
Et je trouve qu'il n'est pas très facile d'accès. Je trouve que c'est un film qui est, quand on le commence, c'est dur, quoi. Il faut vraiment s'accrocher, il faut rentrer, il faut faire complètement le pacte avec Cocteau de rester dans le film. Parce que sinon, c'est un film dont qu'on peut regarder se faire, en fait, d'une certaine manière, sans vraiment rentrer à l'intérieur du film. Donc je trouve qu'il est difficile, ouais.
Comme quoi, il faut accepter le pacte que Cocteau vous propose au début de son film. Il faut l'accepter. Il vous le demande d'accepter.
Et il le demande, il le sait. Ouais.
Et voilà, il est au courant. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème d'Année-Lumière consacré à l'année 1946. On a parlé de La Belle et la Bête. On est toujours avec Clémence Madeleine Perdria. Et on est parti sans plus attendre vers le troisième et dernier thème de notre émission. Cette musique que vous avez peut-être reconnue, musique composée par Roy Webb, c'est celle du film Notorious, Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème de l'émission consacrée à 1946. Alors Les Enchaînés, c'est un film d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains, qui raconte une histoire d'Alicia, qui est la fille d'un espion nazi, qui mène une vie... dépravée ou en tout cas
malheureuse,
on va dire, voilà. Et Alicia va accepter la proposition d'un certain Devlin qui lui demande de travailler pour les États-Unis afin de réhabiliter son nom. On va lui demander d'épouser un ancien ami de son père, donc un ami nazi, afin de l'espionner. Et elle et Devlin vont tomber amoureux et son rôle mystérieux, un peu d'épouse agent secrète, va être bientôt découvert. Je pense que j'ai très très mal raconté Les Enchaînés, parce que toi, c'est ton film préféré.
Non, tu l'as raconté, tu es partie des faits.
J'ai raconté les faits, et là, on va discuter effectivement de quoi ça parle vraiment. Alors, avant de lancer la discussion, pour mettre un peu de contexte, c'est bon, Les Enchaînés donc d'Alfred Hitchcock, c'est un film qui, quand il sort aux États-Unis, réalise 4,8 millions de dollars box-office. Alors, c'est pour vous donner une idée, il est le 8e film de l'année, donc c'est un film qui marche bien, et c'est un film qui surtout a été vendu en ce qu'on appelle en pack à la RKO, c'est-à-dire que le producteur David O. Selznick, qui croyait pas vraiment au projet, et surtout pour compenser un dépassement de budget qu'il avait dans Duel au soleil, qui est un autre film de cette année 1946, avait vendu à la RKO un pack Hitchcock, Cary Grant, Ingrid Bergman dans Les Enchaînés, qui est un film qui va s'installer comme l'un des films les plus importants d'Alfred Hitchcock, qui est le 9e film américain de ce cinéaste-là, qui a fait avant Rebecca, qui a fait avant Soupçon, déjà avec Cary Grant, qui a fait L'ombre d'un doute, La maison du docteur Edwards, déjà avec Ingrid Bergman, et surtout qui est aussi, on va dire, la rencontre folle entre Cary Grant et Ingrid Bergman, les deux grosses stars, ou parmi les deux grosses stars post-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Donc c'est un film de stars, c'est un film d'Hitchcock, c'est un film riche et passionnant, et c'est ton film préféré.
Et c'est un de mes, oui, c'est un de mes films, c'est un de mes films préférés.
Qu'est-ce qui symbolise pour toi Les Enchaînés?
Je trouve ça bouleversant. En fait, à chaque fois que je le vois, je trouve ça absolument bouleversant. Je trouve que c'est un film qui parle du quiproquo amoureux, d'une certaine manière, d'une forme de quiproquo tragique, de pudeur, en fait. Et c'est deux personnes qui n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment, qui n'arrivent pas à être ensemble et qui vont faire des choses folles pour éviter d'une certaine manière d'être ensemble, notamment le personnage de Cary Grant qui n'arrive vraiment, vraiment pas à dire à Alicia combien il est amoureux d'elle. Ouais. Et ça, c'est tragique. Et je crois que, pareil, c'est quelque chose qui est tellement humain, tellement partagé par tous. En fait, cette sorte d'incapacité qu'on a parfois à accepter les choses qui nous arrivent et qui sont bonnes pour nous et qui sont bien, qui sont joyeuses parce qu'on a plein d'entraves. Et c'est vraiment un personnage qui est entravé, enchaîné. Hein, c'est vraiment le titre du film. Mmh. Et je trouve que d'assister à ça dans le film, c'est absolument magnifique. Et notamment, il y a une scène qui, pour moi, est une des plus grandes scènes de cinéma. C'est qu'en fait, à un moment, je vais un peu spoiler l'intrigue, mais à un moment, Alicia vit donc avec son mari qui est nazi, et son mari se rend compte qu'elle est espionne, qu'elle est en train de l'espionner, qu'elle est en train d'apprendre des choses graves sur lui, et donc il décide de l'empoisonner. Et donc il l'empoisonne tous les jours un petit peu en lui donnant le thé, et donc nous on sait qu'elle est en train de se faire empoisonner, elle ne le sait pas, et Devlin, le personnage de Cary Grant, ne le sait pas non plus. Et il la retrouve sur un banc pour qu'elle lui fasse un peu le bilan de son espionnage, comme ils le font toutes les semaines. Mmh. Et elle va très mal parce qu'elle est en train d'être empoisonnée. Et lui, il est tellement entravé, il peut tellement pas la voir telle qu'elle est, qu'il croit qu'elle a repris sa vie un peu dissolue du début du film, ouais. Et qu'en fait, elle est alcoolique et qu'elle est en gueule de bois, quoi. Mmh. Et il est odieux avec elle, et elle part, voilà, quasiment sur le point de s'évanouir, quoi. Et je trouve que la scène est brillamment jouée, brillamment écrite. Vraiment, c'est une scène qui me touche immensément. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux aveuglés. C'est-à-dire qu'elle, elle n'arrive pas à lui dire « j'ai besoin d'aide, il y a quelque chose qui ne va pas », et lui n'arrive pas à voir que ça ne va vraiment pas, en fait. Et ouais. C'est deux personnages comme ça qui n'arrivent jamais à se retrouver jusqu'à la fin. Donc, qui est plutôt une fin heureuse. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très, très, très beau dans ce film.
Mais c'est marrant parce que du coup, effectivement, tu l'as dit, donc déjà, le titre français, c'est « Les Enchaînés », alors qu'aux États-Unis, c'est « Notorious », qui passe du coup un tout autre message, oui. Qui du coup, ça tarde plus sur la dimension plus thriller, alors que effectivement, comme tu l'as dit, c'était plus un mélodrame enrobé dans une espèce de un cœur de mélodrame dans un enrobé dans un thriller qui du coup passe un petit peu au second plan.
On passe le film à avoir envie qu'ils soient ensemble. Exactement. En fait, après il y a l'intrigue parce que c'est quand même vraiment un film d'espionnage.
Il y a des séquences de l'escalier, la séquence des bouteilles. Il y a quand même des trucs, la clé.
Oui.
La séquence de la clé.
Non, le film est vraiment un film d'espionnage extrêmement bien construit, voilà. Et extrêmement bien écrit. Et je voudrais rajouter à ce sujet d'ailleurs que le scénariste, c'est un scénariste qui s'appelle Ben Encht, dont on parle jamais parce qu'on parle jamais des scénaristes. Et le gars, la même année, avait quand même écrit Gilda, avait quand même écrit Duel au soleil. Il écrira Au tournant emporte le vent. Il travaillera avec tous les grands cinéastes, les Hawks, les Preminger. Mmh. Il a une filmographie, ce scénariste, qui est hallucinante, ouais. Vraiment, qui est, je pense, un des plus grands scénaristes de cette époque. Hein, il est très méconnu. Et on retrouve chez ce scénariste-là aussi, je pense, cette sorte d'impossibilité qu'ont les personnages d'aller vers les uns vers les autres et qui crée du dilemme, du drama. Et c'est tout ce qu'on aime au cinéma.
J'ai lu qu'effectivement, il y avait aussi un autre collaborateur qui avait eu un impact assez, assez important sur le film. C'était Ingrid Bergman, qui avait voulu donner beaucoup d'input à Hitchcock. Et Hitchcock, parce qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un de très forcément
de très souple.
Et là, pour le coup, sa collaboration avec Bergman, en tout cas sur le film et sur sa façon de gérer son personnage à elle, comment elle aurait réagi, etc. Elle avait aidé à façonner ce personnage.
Elle est extraordinaire. Vraiment, moi, je trouve que c'est une des plus belles interprétations. Parce qu'en fait, tout est complexe. C'est-à-dire que on pourrait se dire qu'il y a une forme comme ça de Mata Hari qui irait coucher avec les agents nazis, mais pas du tout. En fait, elle connaît cet homme qu'elle va épouser parce que c'était un ami de son père. Et elle va accepter de se marier avec lui parce qu'en fait, il est assez touchant. Et d'ailleurs, le personnage
Claude
Rains, de
formidable,
Claude Rains,
acteur
est incroyable.
Formidable,
ouais. Et ça a été aussi un peu reproché, ça, de dire c'est un gentil nazi, d'une certaine manière. Mais en fait, voilà, c'est un homme terrible, mais qui, par ailleurs, est fou amoureux de sa jeune épouse, qui vit avec sa maman aussi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve aussi ce côté, la belle-mère, comme ça, sur le côté qui est horrible, empoisonneuse, qui va sentir dès le début que cette femme est louche parce que c'est pas normal qu'elle s'intéresse à son fils. Donc même là-dedans, on retrouve cette sorte de maison comme ça avec ses souterrains dangereux. Enfin, on revient en fait sur ces choses-là.
On revient sur le château, on revient
c'est pas totalement un huis clos, mais ça se passe quand même énormément à l'intérieur de la maison, qui est à Rio. Et je trouve que ce que fait Ingrid Bergman dans le film est incroyable. Incroyable.
On l'a dit, il y a Ingrid Bergman, il y a Cary Grant, ces deux stars qui sont sans doute à leur firmament d'aura, de talent, de plein de choses. Et tous les deux ensemble, c'est formidable, quoi. En tant que spectateur, c'est délicieux, c'est savoureux.
Ouais, on a vraiment l'impression que les grands acteurs, quand ils sont en face de grands acteurs, c'est comme si ça remontait encore le niveau, d'une certaine manière. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est comme dans le sport. J'imagine qu'un grand boxeur qui rencontre un grand boxeur, ça fait monter tout de suite le niveau. Et là, c'est pareil. On a la sensation, quand ils sont tous les deux, que ça fait vraiment des étincelles et qu'ils se regardent jouer et qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble. Et que les scènes, elles sont magnifiques.
Moi, ce qui m'intéressait, de savoir ce qu'il y a vraiment au cœur d'un film d'Hitchcock, quels sont les ingrédients d'un film d'Hitchcock, et qu'est-ce que Les Enchaînés a en plus, qui le fait peut-être pour toi, à tes yeux, sortir du lot.
Ce qui me semble être le cinéma d'Hitchcock, c'est quelque chose qui est toujours à la fois très policier et en même temps très, j'aurais envie de dire, presque érotique. C'est-à-dire que pour moi, les films d'Hitchcock, ils sont puissants parce qu'il y a un érotisme fou.
Qu'est-ce que t'appelles policier ?
Alors, il y a beaucoup aussi dans ces films, bien sûr, l'idée d'être accusé à tort. Ça arrive en permanence. C'est vraiment son motif absolu. Et donc ça génère du polar de manière formidable parce que dans la seconde, il faut que quelqu'un dise « Mais non, c'est pas moi, personne ne le croit », etc. Donc ça, c'est vraiment la trame, pour moi, narrative, polar, sur laquelle il va se reposer quasiment dans tous ses films. Et en réalité, c'est pour parler de quelque chose qui l'intéresse beaucoup plus et qui est profondément la question du désir, la question du sexe, la question de c'est quoi deux personnes l'une en face de l'autre, qu'est-ce qui se joue, comment on se dit les choses, comment on se les dit pas.
Les non-dits, ouais.
Voilà, c'est ça. Et d'être sans cesse attiré par des figures qui sont en fait des figures qui s'échappent. Donc Devlin, il est attiré par cette femme, mais en même temps, il veut qu'elle lui échappe. Ce sera voilà, au cœur de tous ses grands films. Je pense que Vertigo, ça parle de ça. Ça parle de quelqu'un qui aime une personne qui n'est plus là, qui n'existe pas vraiment, en fait. Donc c'est vraiment, je trouve, l'incarnation même du fantasme. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est quand même très important à dire, c'est que Hitchcock, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, va en salle de montage à Londres et monte des images qui ont été faites à l'ouverture des camps.
Oui.
Et il est dans les salles de montage. Et en fait, cette vision-là, il en parlera plus tard avec Truffaut, va le traumatiser. Enfin, ce qu'il va voir, il s'en souviendra toute sa vie.
Oui, parce que cinéaste britannique, hein, rappelons-le, Hitchcock est anglais.
Absolument. Donc... Et il était en salle de montage. Voilà, il a vu tout ça. Et donc, il fait les enchaîner après avoir vu ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui l'impacte beaucoup. Et son cinéma, qui avait quelque chose d'assez lumineux jusqu'alors... dans ses premiers films qui sont parfois très candides justement avec une forme d'innocence, je pense par exemple au 39 marches qui est un film que j'adore et qui est vraiment un film où il y a cette forme de légèreté, bah là soudainement il y a quelque chose d'autre, il y a une sorte de poids qui semble lui être tombé sur les épaules et qui se ressent vraiment dans le film.
Voilà notre bafouille sur Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose toi en particulier sur ce film?
Ah non, j'ai pas d'argument, mon argument c'est si vous commencez vous n'allez plus vous arrêter,
voilà, c'est un
et
piège,
vous allez avoir envie de voir plein d'Hitchcock parce que c'est la garantie de passer un moment incroyable.
Bah voilà, on ne sait pas quoi vous dire de plus, hein, débrouillez-vous avec ça. Voilà.
Mais oui.
Voilà qui conclut parfaitement ce troisième thème sur 1946. On a parlé des Enchaînés d'Alfred Hitchcock. On arrive doucement à la fin de notre émission, mais comme d'habitude, on va se quitter après un petit tour du monde, un petit moment recommandation avec nos films coup de cœur qu'on n'a pas pu évoquer dans les trois thèmes qu'on a fait. C'est parti. Voilà, alors comme d'habitude, effectivement, on va vous partager nos petits films coup de cœur, ceux qu'on recommande en 1946. Toi, Clémence, est-ce que tu avais justement un petit film que tu aimerais recommander plus qu'un autre et qui vient de cette année 1946?
Moi, j'ai un grand amour pour le western, qui me vient aussi de mes parents, qui m'ont beaucoup montré de western et j'adore ça. Et donc là, c'est un western qui s'appelle My Darling Clementine ou La Poursuite Infernale, et qui est un film que j'aime énormément et que j'aime énormément pour une raison très simple, c'est que moi, j'aime les acteurs qui dansent. Dès que je vois un acteur qui danse dans un film, je trouve ça merveilleux. Par exemple, Serge Reggiani dans Casque d'or, je trouve ça sublime. Ouais. Joaquin Phoenix dans Two Lovers, je trouve ça sublime. En fait, quand les acteurs sont laissés par les metteurs en scène à leur propre corps et qui peuvent faire une proposition, c'est-à-dire que quand on est scénariste et qu'on écrit ils dansent, bon bah à moins que ce soit une danse de ballet par exemple très précise, on va devoir laisser l'acteur faire, on va dire c'est une scène de boîte de nuit, il se met à danser, il danse de manière très exubérante, mais après c'est à l'acteur de travailler quoi. Et c'est vraiment le moment où le scénario nous échappe et où il est transcendé par une mise en scène et par une incarnation.
C'est excitant ça, à ce moment-là quand tu l'écris, tu te dis
c'est merveilleux.
J'attends de voir ce que ça va donner.
Quand c'est bien fait, c'est merveilleux. Quand c'est décevant, quand l'acteur n'y est pas allé tout à fait ou n'a pas trouvé le rythme, etc., c'est très décevant. Mais quand c'est bien fait, c'est incroyable. Et là, il y a une scène de danse avec Henry Fonda qui joue le rôle principal de ce film qui est, je trouve, incroyable parce qu'il incarne à la fois un shérif qui est très raide et que l'idée de danser ne met pas très à l'aise. Et en même temps, il faut qu'il le fasse. Et du coup, il joue ça avec une sorte de panache. Enfin, la scène est incroyable. Et donc, vraiment, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, notamment pour cette scène.
Est-ce que tu as déjà écrit des choses dans un scénario et eu cette expérience de voir à l'écran quelque chose que tu avais écrit qui a été transcendé par un acteur? Tu as un exemple que tu aurais en tête à nous donner, là, par
exemple? Je crois qu'en travaillant sur Nona et ses filles, donc la série... sur laquelle j'ai travaillé avec Valérie Donzelli, le moment où Miu Miu est arrivée pour incarner cette mère de famille et où Clotilde Daim, Virginie Doyen et Valérie ont joué le trio des triplés, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui était très émouvant, où j'ai vu cette famille sur laquelle on travaillait depuis 5 ans exister et elles ont vraiment porté complètement la série, hein, les 9 épisodes, et ça, c'est très beau de voir ça. Mmh. C'est vraiment étonnant. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'écrire une scène comme celle que je viens de décrire là, qui sont vraiment des pures scènes de, je dirais pas d'improvisation, mais quand même, si, il y a une part qui ne nous appartient pas, quoi.
Eh ben écoute, tu pourras écrire la prochaine fois, tu diras, et là, il danse. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Non, j'ai envie qu'il danse, parce que je suis très curieuse. Voilà. Et Nona et ses filles, donc, arrivent sur Arte.
Oui.
Et donc, c'est 9 épisodes.
9 épisodes de 30 minutes.
Et ça a ce casting formidable.
C'est un casting formidable et surtout, il y a beaucoup de cousinage avec le comte dont on a parlé. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est très présent dans le cinéma de Valérie et voilà, qui est là.
Exactement, effectivement, dans le cinéma de Valérie Donzelli. Donc voilà, si vous avez aimé notre discussion sur le conte, bah, n'hésitez pas à aller regarder Nona et ses filles qui arrive sur Arte et qui, mine de rien, en parle également. Donc c'était donc La Poursuite Infernale de John Ford, ta petite reco de l'année 1946. Merci beaucoup. Moi, pour ma part, je vais recommander autre chose. Je vais vous recommander un film qui s'appelle A Matter of Life and Death ou Stairway to Heaven. Ou une question de vie ou de mort. Bref, il a plein de titres, ce film. Un film de Michael Powell et Aymeric Pressburger, qui est donc un film britannique. Duo Powell-Pressburger, c'est un duo qui a fait des films que vous avez peut-être entendus, chers auditeurs, des films comme Les Chaussons Rouges, comme Le Narcisse Noir, comme Les Contes d'Hoffmann ou 49e Parallèle, qui sont du coup plein de films qui ont peut-être vous évoqué quelque chose. Une question de vie ou de mort raconte l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale d'un aviateur britannique qui s'est joué de la mort. Puisque au moment du coup il meurt, au moment où il doit être récupéré par un ange, il n'est pas récupéré par cet ange qui fait autre chose, et il tombe amoureux. Et du coup, au moment donné où l'ange vient réparer son erreur et lui dit, il faut partir monsieur, maintenant il faut mourir, et lui il va dire ah non, je suis pas d'accord, parce que moi dans l'entretemps, dans notre lieu, je tombe amoureux, donc je mérite de vivre. Et il va devoir plaider sa vie et défendre sa vie devant un tribunal céleste. Bref, l'histoire est un peu folle, c'est un concept un peu foufou. C'est, je sais pas toi si tu l'as vu.
Non, je le connais pas, ce film.
T'as cette dimension film de guerre qui disparaît très très rapidement et on rentre dans un épisode de la quatrième dimension. C'est-à-dire que il se retrouve un peu en purgatoire et il tombe amoureux de quelqu'un et il y a des séquences un peu folles où il arrive au paradis. T'as ces images visuellement complètement délirantes. On est en 46 et t'as des images avec des rangées d'ailes à perte de vue, un escalier phénoménal qui part vers le nuage, avec Napoléon, César, machin, dans une espèce de grand tribunal très très gréco-romain, avec un décor de nuages. Visuellement, on se croirait dans une autre dimension, on se croirait dans les films les plus ambitieux des gros studios américains. Pourtant, on est juste dans un film britannique, juste avec ce regard fou de Powell et Pressburger, qui ont du coup toujours un duo de cinéastes qui a toujours des idées visuelles un peu tarées. Bref, c'est un film qui est, encore une fois, un film de conte en temps de guerre, donc encore une fois une sorte d'alternative proposée au spectateur, visuellement, narrativement, qui raconte énormément de choses sur le prix de la vie, qu'est-ce qu'on en fait aussi, et toujours une fois, comme on en a discuté, cette importance de les liens qu'on a avec les gens, l'amour, leur dire qu'on les aime, et voilà, ces petites choses qui peuvent changer pas mal de choses dans notre vie à chacun d'entre nous. Voilà, bref, c'est ma petite reco, une question de vie ou de mort de Powell et Pressburger, un film de 1946. N'hésitez pas à le regardez. Voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1946. J'aimerais avant tout remercier mon invité Clémence Madden-Perdria. Merci beaucoup Clémence.
Merci à toi, j'étais ravie de parler de 1946.
C'était un plaisir de partager. Merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Et du coup, un petit peu de toi aussi. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et La Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Et je rappelle que si vous voulez soutenir Année Lumière, vous pouvez le faire via le site Utip. Ça m'aide vraiment à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.